On peut remarquer que chacun de nous subit dans sa vie plusieurs influences majeures auxquelles il est plus ou moins sensible. L'homme est parfois même gouverné par ses influences. Il importe donc que ces influences soient bonnes. Malheureusement, celles qui ont le plus d'emprise sur lui ne sont pas toujours les meilleures. Nous relèverons dans cette étude trois influences majeures qui déterminent souvent nos réactions, notre manière d'être et même notre manière de penser. Nous verrons d'abord que l'homme est parfois préoccupé par ce qu'il pense de lui-même, par l'opinion qu'il se fait de lui-même. Puis nous verrons qu'il est souvent fortement emprisonné par la préoccupation qui consiste à se demander ce que les autres pensent de lui. En troisième lieu, nous relèverons une influence qui se fait malheureusement très rare, la préoccupation qui nous pousse à nous inquiéter de ce que Dieu pense de nous. Voyons tout d'abord l'opinion que nous avons de nous-mêmes. Il faut honnêtement remarquer que l'homme a une fâcheuse tendance à l'enflement. Il a le goût de la gloire. Il est sensible aux compliments qui le rehaussent aux yeux des autres et à ses propres yeux, même si derrière ces compliments se cache la flatterie. L'homme, en général, n'aime pas les situations inférieures. Ce désir, qui est légitime dans un sens et qui devrait conduire l'homme vers une noble amélioration de son état, prend souvent la route de l'orgueil arrogant autant que démesuré. C'est à cette dangereuse maladie que l'apôtre Paul veut apporter un remède préventif lorsqu'il écrit « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. » Il faut remarquer que l'apôtre Paul ramène tout à Christ et à Dieu. C'est pourquoi dans cette même épître aux Romains, il compare l'Église au corps de Christ dont il est la tête et dont les chrétiens sont les membres. C'est en effet à l'Église en particulier qu'il s'adresse, car les différentes assemblées chrétiennes réparties dans le monde d'alors étaient les destinataires immédiates de ces lettres apostoliques qu'on appelle les épîtres. De toute manière, que ce soit dans l'Église ou hors de l'Église, devant Dieu, l'humanité n'est pas hiérarchisée, dans le sens que certains valent à ses yeux plus que d'autres. La Bible nous dit par la bouche de Pierre, l'apôtre, qu'en toute nation, celui qui craint Dieu et qui pratique la justice lui est agréable. Parallèlement, l'apôtre Paul dira que celui qui agit injustement recevra selon son injustice, et il n'y a pas d'acception de personne. Aussi, dans l'Église, il y a place pour l'ingénieur et l'ouvrier, pour le savant et l'employé, pour l'intellectuel, pour le riche et le pauvre, mais que personne ne s'encombre l'horizon par la silhouette de sa propre personne. Chacun doit apprendre à regarder vers l'autre. Paul dira même que chacun, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Et à l'intention de ceux qui persistent à se gargariser avec leur moi, Paul dira encore, qu'est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te vantes-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? La grande leçon d'humilité que Dieu veut nous enseigner par ses paroles consiste à nous donner conscience de notre diversité et de notre unité en Christ, notre chef commun, au sein de l'Église. De sorte que chaque membre du corps doit aimer la fonction que Dieu lui a donnée. Il doit l'aimer et la bien remplir. Le membre qui veut exagérer sa fonction finit par s'hypertrophier et à rompre l'harmonie de l'ensemble. Et lorsque plusieurs membres sont ainsi possédés par le désir de paraître, ils finissent par s'entre-dévorer. À cet égard, la parole prévient que si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Ainsi pouvons-nous mieux comprendre la sagesse de l'initiative divine qui faisait établir dans chaque assemblée locale plusieurs anciens dont la responsabilité première était de veiller au développement spirituel de troupeaux dont ils étaient les pasteurs. Ils étaient donc plusieurs dans chaque assemblée à se partager cette lourde tâche. Ce n'est que plus tard, après la mort des apôtres, que certains anciens, épris de puissance et de gloire, tentèrent de s'élever au-dessus des autres en s'octroyant des titres de plus en plus pompeux. On assista alors à des luttes navrantes où on passait son temps à s'excommunier mutuellement. Mais revenons au passage biblique que nous avons relevé. Il faut noter que tandis que la Bible nous exhorte à l'humilité, il ne faut pas pour cela en déduire que nous devons renier ce que l'on est et ce dont on est capable. Ce serait verser dans l'autre extrême. L'alouette refuse-t-elle de faire entendre son chant limpide sous prétexte que le rossignol possède un répertoire plus varié? La délicate et timide violette cessera-t-elle de livrer son parfum parce qu'elle aperçoit une pivoine tellement plus grande et tellement plus flamboyante qu'elle? Cette attitude tiendrait de la jalousie et de la révolte contre la mauvaise répartition des dons par un créateur injuste. En fait, nul n'est totalement frustré de sa part. Nul n'est totalement dépossédé. Mais comme nous sommes tous différents en taille, en physionomie et en caractère, nous avons reçu de Dieu des dons différents. À certains, Dieu a confié d'humbles tâches. À d'autres, il a confié de lourdes responsabilités à cause de leur grande capacité. Que l'on sache seulement que l'on demandera beaucoup à celui à qui on a beaucoup donné et on exigera davantage à qui l'on a beaucoup confié. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, dit la parole de Dieu, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Voyons maintenant cette autre influence déterminante dans la vie d'un homme que nous avons définie par la question suivante. Que pense-t-on de moi ? C'est ce qu'on peut à juste titre appeler le tribunal de l'opinion publique dont nous avons déjà parlé. Souvenons-nous à cet égard que lorsque Jésus enseignait les foules, même parmi les chefs du peuple, plusieurs crurent en lui. Mais Jean nous rapporte qu'il n'en faisait pas l'aveu. Pourquoi ? Parce qu'il craignait d'être exclu de la synagogue. Trop de gens, aujourd'hui encore, vivent dans l'angoisse du « qu'en dira-t-on ?» ce juge implacable qui exerce une véritable tyrannie sur leurs âmes faibles et serviles. On a peur de choquer ce juge. On a peur de surprendre, d'attirer l'attention. On a peur de ne pas faire ou de ne pas être comme les autres. Inévitablement, l'homme qui s'est engagé sur la route de la vérité, dont les étapes sont clairement délimitées dans la Bible, devra faire face à diverses épreuves qu'il lui était facile d'éviter auparavant. Ces épreuves, ces obstacles, il les a choisis, ou du moins, il les a acceptés d'avance. Car s'engager pour le Christ, dont la loi nous est dictée dans la Bible, c'est déclarer la guerre au péché sous toutes ses formes. C'est lutter contre une certaine forme de morale sociale souvent plus que compromise. Dans ce domaine, ce que les autres pensent de moi doit demeurer secondaire. Car si j'évite de prendre mes responsabilités devant Dieu, si je me garde d'exprimer mes convictions religieuses par crainte des moqueries ou de toute autre vexation, je ne suis pas digne d'être disciple de celui qui n'a pas hésité à embrasser la croix pour me sauver. Souvenons-nous de ces paroles à la fois tristes et sévères. Quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. Nous ne voulons pas toutefois donner l'impression qu'un chrétien est un être forcément condamné à la solitude et à la persécution. Seuls les insensés chercheront à nuire aux chrétiens. Les gens intelligents sauront reconnaître la loyauté, la droiture d'un homme et seront frappés par la franchise de son regard. En fait, rien n'est plus utile à la société qu'un vrai chrétien, car c'est un homme qui condamne toute violence, toute mauvaise passion qui mine et sape notre jeunesse. C'est un homme respectueux des gouvernements, foncièrement honnête et loyal. Mais il doit lutter pour être tout cela. D'un autre côté, rien n'est plus facile que de se laisser emporter par le courant, en faisant comme tout le monde, en pensant comme tout le monde. Jésus-Christ appelle l'homme à une direction opposée au sens du courant. C'est pourquoi, pour aller jusqu'à lui, il faut nager à contre-courant, sans relâcher nos efforts. À partir du moment où j'ai entendu l'appel du Christ et que j'ai décidé d'emprunter la route qu'il me propose de suivre et que je ne soupçonnais même pas, mais qui est là dans l'Évangile, ce que les autres peuvent penser de moi n'a plus d'importance. Par la foi, la repentance et le baptême, j'appartiens désormais à un autre gouvernement. Ce n'est plus moi, ce ne sont plus les autres, mais le Christ qui vit en moi. À présent, ce qui compte, c'est ce que Dieu peut penser de moi. Et ceci nous amène à notre dernière question. Lorsque nous étudions la vie des grands hommes qui ont marqué l'histoire d'un jalon important, on se rend compte que plus que toute autre qualité, ce qui les caractérise, c'est un but majeur vers lequel ils se sont portés sans se relâcher. Quelle qu'ait pu être l'adversité, ils ont consacré toutes leurs possibilités, toute leur énergie physique et intellectuelle à cet objectif primordial. Ils ont concentré tout cela, comme une loupe concentre les rayons du soleil sur une substance qu'elle finira par brûler. N'est-ce pas le secret que nous livre le Christ dans son sermon sur la montagne ? Vous vous dépensez dans toutes les directions. Vous vous adonnez totalement à plusieurs amours. Votre maison, votre voiture, vos vacances, votre travail, votre santé. Vous êtes comme des pantins qui battent l'air de leurs bras maladroits, qui cherchent à tout saisir à la fois et qui n'atteignent que le vide. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous les recevrez par-dessus. Mais quelqu'un dira, je n'ai pas le temps, je n'ai pas de place à accorder à la religion, je suis si occupé. N'est-ce pas à la fois triste et absurde? De tels raisonnements trahissent une parfaite ignorance de la nature de la religion. C'est comme si l'arbre disait, je n'ai pas de place pour la sève. C'est comme si notre cœur disait, je n'ai pas le temps de battre. C'est comme si l'océan disait, je n'ai pas le temps de m'occuper des marées. Ne savons-nous pas que la religion n'est pas un à côté de la vie, et que si tel est le cas, la vie est morte? La vraie religion, c'est aussi la vraie vie. Elle occupe toutes les pores de notre corps, tous les recoins de notre vie, tous les instants de notre existence. En Christ, il est impossible de dissocier la vie de la religion. En lui, c'est comme un cœur qui bat tous les jours, et même la nuit, car notre repos est placé sous la garde de Dieu. Ne nous laissons donc pas gouverner par l'intérieur, c'est-à-dire par notre moi, ni par l'extérieur immédiat, c'est-à-dire les autres et leurs jugements, mais laissons-nous diriger par en haut, d'où vient le soleil et la vie. Le résumé de tout ce que nous avons dit se trouve en fait dans cette simple déclaration du Christ. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, c'est le moi. Qu'il se charge de sa croix chaque jour, c'est la marche à contre-courant, et qu'il me suive.